Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. 2 heures dédiées aujourd'hui au génie d'un acteur qui nous a quittés hier, il s'appelait Michel Piccoli et non pas Daniel Picouli comme me l'a d'abord signifié par texto l'inénarrable Eva Rock. Bonjour Eva.
Mais je vous ai pas dit ça, bonjour Mathieu, bonjour à
vous
tous.
Vous n'en ferez jamais d'autres.
Mais non, mais vous savez pourquoi j'ai mis Picouli en fait?
Mais je ne sais pas.
Parce qu'en fait j'ai effectivement, je ne vais pas me la raconter, mais j'ai le numéro de Daniel Picouli dans mon portable. Et le correcteur orthographique prend en fait les numéros que vous avez déjà enregistrés.
Elle réussit à frimer en retournant les situations. Michel Piccoli, immense comédien que vous connaissiez bien, Eva, il vous appréciait, même si vous le souliez parfois un peu avec toutes vos questions.
Tu vois mes pieds dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolis?
Oui. Très.
Tu vois mon derrière dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolis mes fesses?
Oui.
Vous lui posez beaucoup de questions,
Eva. C'est une scène magnifique, ne gâchez pas
magnifique.
Ça.
Magnifique, évidemment, cette émission est dédiée à Michel Piccoli, dont vous conseillez un film ce soir, évidemment.
Évidemment, on reviendra sur sa carrière avec plein de films qui sont programmés dans les prochains jours sur vos chaînes de télé.
Vous nous distillerez vos précieux conseils tout à l'heure, mais d'abord, chaque jour, vous le savez, on prend des nouvelles d'une personnalité qu'on aime aujourd'hui, une artiste qui n'aime pas trop qu'on la présente comme une icône. Je la cite, une icône, je suis allé vérifier dans le dictionnaire, image figée, dorée, ça ne me va pas trop, je préférerais irrésistible, j'assumerais mieux. Alors Eva, accueillons tout de suite l'irrésistible Dany. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Dany. Bonjour.
Bonjour.
On pensait à vous hier en diffusant ce célèbre duo avec Étienne Dao comme un boomerang.
Oui.
Vous avez plein de projets dans les prochains mois. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur ce titre comme un boomerang qu'on connaît tous, mais on connaît pas tous l'histoire de cette chanson. Moi-même, je l'ai découverte en travaillant sur cette émission. C'est une chanson avec Étienne Dao en 2001, mais elle est en fait bien plus ancienne que ça.
Alors c'est une chanson que Serge Gainsbourg avait écrite pour moi pour l'Eurovision en 75, et le jury à l'époque qui faisait la sélection des chansons pour représenter la France a trouvé qu'elle était un peu agressive, parce que ça parlait de flingue, il y avait des mots exsangues. Bon, ça leur a pas plu, donc Serge était fou de rage. Moi, ça m'a pas trop gêné, parce que de faire un concours, c'est très difficile, 3 minutes pour défendre quelque chose, c'est un challenge, comme on dit. Et cette chanson est restée sur une étagère dans la maison de disques Vogue et tout ça. Et puis au fil du temps, Étienne me dit, mais pourquoi tu chantes plus? Pourquoi tu chantes plus? J'ai dit, écoute, j'ai pas de chanson. Voilà, je t'ai sorti un peu du circuit pour d'autres raisons. Il me dit, ben là, il faut que tu chantes. Et il a été recherché cette chanson.
Mais il la connaissait, lui? Ou en faisant des recherches, il l'a trouvée?
À Étienne, je lui donne toutes les choses.
D'accord.
Que j'avais fait.
Okay.
Il adore écouter et tout ça. Et il dit, bon, voilà, tu vas la refaire. Donc, je vais la produire, la chanson et tout ça. Donc, on commence à travailler. Tout. Et quand on est au studio, je lui dis, fais-moi une voix lead quand même, parce qu'il avait fait... Il était très... il avait fait des arrangements très proches de ceux de Serge, avec Jean-Pierre Sabar, le pianiste, et quand même avec un son d'aujourd'hui, quoi. Enfin, il y a 20 ans, je ne sais pas, il y a combien de temps qu'elle est sortie? En 2001.
Voilà.
2001,
ouais. Ouais, ça fait bientôt 20 ans.
Ouais, ouais.
Et quand on fait le mix, le monsieur qui est à la manette, d'un seul coup, il monte la voix d'Étienne, et tout le monde dit, mais ça, c'est un duo. Voilà comment est arrivé ce duo. C'est une magnifique chanson, c'est fameuse histoire des chansons.
Ouais. Ils avaient eu du pif, le jury de l'Eurovision.
Oui.
On peut les embrasser rétrospectivement.
Je vous le fais très bien.
Alors Dany, on va évoquer vos projets. Vous allez nous dire aussi un peu comment vous avez vécu ce confinement. Juste le temps de vous présenter nos deux premiers journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Le premier, vous allez certainement le reconnaître, Dany, car il était un des piliers de votre boîte de nuit, L'Aventure, d'où il sortait souvent dans un sale état vers 5h du mat en hurlant.
Moi aussi, je veux être un monstre, je veux être un loup-garou.
Toute une époque, les années disco. Bonjour Fred Goati.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour Fred.
Vous êtes Fred, le directeur de Jazz Magazine, et aujourd'hui vous nous parlez du seul festival de jazz qui pour l'instant se maintient cet été.
Ah oui, vous savez que la totalité des concerts et des festivals de jazz qui devaient avoir lieu ces dernières et ces prochaines semaines ont été purement et simplement annulés. Mais tels les habitants d'un village gaulois prêt à résister à l'envahissant coronavirus, d'aucuns cherchent des solutions pour sauver la musique live. Et ils les trouvent.
Vous allez nous raconter comment ils vont s'y prendre. Face à vous, Fred, il est le monsieur cinéma d'Europe 1. Et d'ailleurs, il ne supporte pas quand un autre journaliste que lui ose parler de cinéma dans cette émission.
Ouais. C'est comme sur un chantier, c'est-à-dire que le plombier ne peut pas faire le travail de l'électricien.
Bien sûr, et surtout ne pas le contredire. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Ce soir,
ça
Mathieu,
fait rire Dany, hein.
TL9 rediffuse Les Dents de la Mer, le film culte de Steven Spielberg. Mais ce qu'on sait peu, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie.
Oui, c'est ça. C'est pendant ce confinement, pardonnez mon inculture, mais on savait, vous savez que c'était adapté d'un roman. Et en fait, ce roman lui-même était inspiré d'une histoire vraie, d'attaque en série de requins sur une côte américaine dans les années 20. Vous verrez, c'est effectivement un peu gore.
Eva, on frémit d'avance. Ah oui. Le programme est donné. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Dany qui nous accompagne cet après-midi. Unique, une personnalité qui l'est tout autant. Je crois, Dany, que vous avez profité de cette période de confinement pour avancer sur différents projets que nous pourrons découvrir à la rentrée ou en début d'année prochaine. Je ne sais pas si les choses ont été décalées à cause de ce qu'on vit actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur l'album, prochain album qui s'intitule Horizon Doré ?
Voilà, c'est un album qu'on a fini fin décembre. Donc voilà, il va sortir quand on pourra le sortir. Autrement, c'est Horizon Doré. Oui, j'espère qu'il va y en avoir pour tout le monde.
Ah oui, c'était un titre prémonitoire.
Et oui, mais on l'a pas fait exprès. Hein, ouais. C'est la chanson qui s'appelle comme ça. Et puis on va faire des spectacles aussi, du concert. Voilà, des concerts avec un peu de lecture de femmes qui ont écrit, qui m'ont impressionné dans ma vie.
Cet album est très secret, on n'a pas d'extrait encore disponible. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de Joe Starr, il est sur cet album, c'est bien ça ?
Oui, on a fait un duo avec une chanson qui s'appelle Casta Pa, et Didier, Joe Starr, donc, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps, et que j'aime beaucoup, malgré ses excès de foi de rébellion, mais j'aime bien les gens rebelles et un peu, voilà. Et il a beaucoup aimé cette chanson, et quand je lui ai proposé de venir la chanter avec moi, il a dit oui, on s'est bien marré.
Excuse-moi Dany, comment vous avez rencontré Joe Starr ? Comment s'est faite la rencontre ?
Il y a très longtemps à Montreuil, quand il commençait à chanter.
Ah oui ?
Voilà. Après, j'ai un peu suivi, je l'ai suivi bien sûr, et puis après je suis allé le voir, les discours de l'Assemblée. Oui. Il était absolument magnifique. Je trouve qu'au cinéma, il impressionne la pellicule aussi, que c'est un acteur et un artiste et un être super.
Même s'il pince magnifique. Très fort, moi, il me pince à chaque fois que je l'ai face à moi en interview. Il me prend le bras et il me pince parce qu'il veut me faire rire ou me faire mal, je ne sais pas. Ah mais en tout cas,
moi,
voilà. Mais je
pas,
l'aime quand même. Vous avez un point commun.
Il est génial.
Dany, vous avez un point commun avec Joe Starr. Vous êtes deux grands artistes, mais vous avez surtout, je trouve, le plus fort point commun, c'est ce goût de la liberté. On ne peut pas vous faire entrer dans des cases. Vous avez chacun creusé votre sillon. On a l'impression que beaucoup de gens autour de nous dans la vie passent leur temps à essayer de cocher des cases. Vous, c'est tout l'inverse, Dany, en fait. Votre vie, c'est...
Ah non, ça je coche pas de case, moi j'essaie de continuer à rêver, j'essaie de retrouver une liberté, je rêve d'embrasser, de serrer dans mes bras beaucoup de monde, je rêve que les chèques arrivent bientôt dans tous les hôpitaux et tous les infirmières et tout ça, je rêve que de ça. Après, voilà, la musique, ça m'a beaucoup aidé pendant ce confinement, et voilà, c'est un truc très simple, il faut continuer à rêver, quoi. Liberté.
Elle continue à rêver, son nouvel album arrive à la rentrée. Dany est notre équipier sauvage cet après-midi.
Europe 1.
Il fait partie de ces journalistes trentenaires qui vont nous permettre de reconnecter avec les jeunes. Mathieu Charrier est insolent de modernité, comme il le prouve avec des expressions comme
« Ah ça m'a mis chonchon, j'ai failli pas venir ».
Alors ce soir les jeunes, ne soyez pas chonchon. Regardez Les Dents de la Mer en replay sur RTL 9 du grand Spielberg basé, et ça vous ne le saviez pas, sur une histoire vraie. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Il fait partie, je dois l'avouer, des camarades que j'étais le plus impatient de retrouver en studio la semaine dernière. Jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Puisqu'en effet, ce journaliste,
sympa,
dont le physique de charcutier traiteur albigeois devrait pourtant l'inciter à la bienveillance de ce côté-là, se permettait une réflexion assassine sur
c'est
le fait
vrai.
Que peut-être j'aurais dû faire un peu plus gaffe à ce que je bouffais durant le confinement.
Mais là, il est temps d'arrêter maintenant, Mathieu, le dites-le.
Oui, show must go on, mais croyez-moi, Matouné, cette remarque perfide n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, d'un obèse peut-être, mais pas d'un sourd. Vous en paierez les conséquences au moment du vote. Il vous reste donc à conquérir Eva et nos auditeurs. Je vous souhaite bonne chance, car vous nous parlez d'un film qu'on a tous vu 10 fois, Les Dents de la Mer.
Quoi de neuf? Ah oui, mais
quoi
moi,
de neuf
oui.
Du côté des Dents de la Mer, Mathieu Charry, je vous pose la question.
Vous l'avez peut-être vu 10 fois, mais est-ce que vous saviez que c'était inspiré d'une histoire vraie?
Bon, non, pas du tout. Non.
Ouais. Et voilà. Ouais. Et en plus, qui résonne un peu avec l'actualité. Je vous rappelle le pitch du film en quelques mots. Les vacances d'été approchent lorsque des habitants d'une petite station balnéaire découvrent le cœur mutilé d'une jeune femme, une baigneuse. Le chef de la police fait assez vite le rapprochement avec une attaque de requins, mais le maire ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas entendre parler d'une éventuelle fermeture des plages.
Ah bah oui.
Tiens,
ouais.
Ça n'est pas un peu dans l'actualité.
Ouais.
Impossible pour lui de voir sa saison compromise alors qu'une grande partie de la ville vit du tourisme. Évidemment, arrive à ce qui devait arriver, les plages ouvrent et les requins profitent du festin.
Comme quoi, il faut garder les plages fermées.
Le lien de cause à effet
bah oui.
Est subi. Alors, film qui a connu un énorme succès lors de sa sortie en salle en 1975 et qui était donc inspiré d'une histoire vraie.
Oui, des attaques de requins répétées qui se sont produites en 1916 le long des plages du New Jersey. Ça commence le 1er juin. Un homme de 25 ans est mordu par un requin au niveau des jambes alors qu'il est en train de nager pour regagner le rivage. Vous savez, notre terreur à tous. Évidemment, hémorragie. Il décède quelques heures plus tard. À ce moment-là, la presse parle d'un homme mort tué par un poisson. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y a une centaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de recherches autour des requins.
Oui.
Sauf que quelques jours plus tard, c'est le groom d'un hôtel qui se fait lui aussi manger les deux jambes dans les mêmes conditions et à peu près au même endroit. Là, évidemment...
Ça vous fait rire en plus que vous êtes bête, quoi.
Là, c'est la panique, vous imaginez bien. D'autant que le 12 juillet, ce ne sont pas une, mais... deux personnes qui sont croquées par un requin dans une crique, là encore, toujours au même endroit. Un garçon de 11 ans est happé par un squal sous les yeux de ses amis. Un autre de 24 ans plonge pour essayer de le sauver. Lui aussi, on ne le reverra pas. Évidemment, les plages sont évacuées. D'ailleurs, lorsqu'un autre enfant est en train de sortir de l'eau pendant cette évacuation, lui aussi est mordu, mais... et il s'en sort, bilan donc 4 morts en 7 jours.
Mais quelle horreur!
Mais surtout, que fait la police, Mathieu?
Mais que fait la police? Alors les pêcheurs du coin commencent à installer des filets, vous savez, pour essayer de capturer le squale. Ils n'y arrivent pas, d'ailleurs les scientifiques n'ont jamais pu dire si c'était réellement un requin ou autre chose, ou des requins.
Des requins, oui, ce que j'allais vous demander. Ouais,
vous savez, au début,
il parlait
de poissons, il n'y avait pas trop de recherches.
Mais attendez, il y a des témoins. Là, le petit enfant qui s'en est sorti, il y avait un groupe d'amis.
C'est des gros poissons, quoi, vous voyez. C'est après, savoir...
Oui, mais c'est pas un monstre marin autre qu'un requin.
Et le monstre du Loch Ness, vous en faites quoi?
Oh, je sens que le journalisme va sortir grandi de cette chronique. Continuez, Mathieu.
Ce qui est sûr, c'est que ça a lancé tout un tas d'études scientifiques sur le sujet et construit, vous savez, cette peur du requin dans l'imaginaire collectif. Parce que je vous rappelle que les requins tuent très peu, une dizaine de morts par an. Les méduses, par exemple, c'est 50 morts. Les abeilles et les frelons, 400 morts. Les crocodiles, 2000. Les scorpions, 3000. Les chiens, 25 000. Les serpents, 100 000.
Ah, mais c'est horrible.
Et les champions, c'est les moustiques, 800 000 morts par an dans le monde, parce qu'ils transmettent, vous savez, beaucoup de maladies. Je vous vois arriver, Mathieu, commencez pas à écrire un scénario sur l'attaque des moustiques. Il en existe, notamment un film qui s'appelle Mosquito, de Gary Jones, sorti il y a 25 ans. Je vous lis le synopsis.
Allez-y.
Un vaisseau extraterrestre s'écrase dans un parc national aux États-Unis. Des moustiques commencent à se nourrir des corps des aliens morts.
Oh,
ils se retrouvent alors avec la taille de vautours et se montrent très agressifs, tuant notamment chaque être humain qu'ils croisent. Voilà.
Ça aussi, ça vous fait rire.
Ça,
quoi.
C'est un bon pitch.
Ah non, c'est horrible.
Ah si.
Ah non.
Oh. Alors moi, je terminerai en vous racontant une histoire, parce que vous rigolez là.
Vous êtes fait mordre par un requin.
Alors, je ne me suis pas fait mordre par un requin, mais figurez-vous que j'étais à Fort Lauderdale en échange linguistique quand j'étais jeune, un été, et j'étais avec mon ami Pierre-Yves Barbotin, que j'embrasse, et on avait acheté un matelas gonflable, et on s'était mis, on barbotait au bord de l'eau, et on avait de l'eau à peu près jusqu'à la taille, et tout à coup, je vois comme, moi j'étais allongé sur mon $1 bille gonflable là, et tout à coup je vois une ombre à côté de moi, je pensais que c'était un nuage en fait, un nuage qui faisait une ombre, et là je vois Pierre-Yves qui alors qu'il n'était pas déconneur, il était premier de la classe, il faisait pas de blagues, et là il court, il trace et il crie un requin, mais il n'était pas du genre à faire des blagues comme ça, mais j'ai quand même cru que c'était une blague, c'était un peu gros, et j'ai cru que c'était un nuage le truc, et je me retourne, et je plaisante pas, à 1 mètre de moi, il y avait un énorme requin, il était de faire peut-être, je sais pas, 2 mètres 50, ce qui pour moi était énorme, et donc là il était juste là. Et donc là, heureusement, j'avais de l'eau jusqu'à la taille. J'ai couru en hurlant. Et toute la plage a été évacuée. Et toute la plage a été évacuée. Et on a vu partir le petit requin, mais il devait être malade parce qu'il n'était pas très actif. Mais
il faisait 30 cm, c'était un bébé requin.
Au moins 2 mètres. Et des témoins peuvent en témoigner. Et des témoins qui peuvent en témoigner.
Oui,
c'est
très fort.
Merci Mathieu Charrier.
Mais vous savez pourquoi?
Pourquoi quoi?
Il est venu parce que les requins, quand vous êtes sur des matelas, sur des planches de surf, etc., ils pensent que c'est des tortues.
Il m'a pris pour une grosse tortue.
Il vous a pris pour une tortue.
Eh oui, mais je lui ai montré que j'étais plutôt un lièvre.
Un jour, je vous raconterai ma course-poursuite avec un hippopotame. J'étais sûr que ça allait vous faire rire.
Oui, mais c'est une connerie.
Ah non, c'est pas une connerie du
mais
tout.
Mais non.
Je pense que j'ai eu la
mais non.
Mais j'ai la plus grande peur
mais
de ma vie.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
On
n'a plus le temps.
Non, on n'a plus le temps.
Mais
allez.
Oui, mais on prendra le temps quelque part d'autre dans cette émission parce que je sens que nos auditeurs ont envie de connaître la course de l'hippopotame. Parce qu'on savait que vous avez battu Marie-Josée Pérec. Mais alors, un hippopotame, c'est encore plus fort parce que ça court très vite.
J'aurais voulu être Usain Bolt, hein,
aujourd'hui. Merci. Merci, Mathieu Charrier. Europe 1. Très bientôt, les amis, les stars seront de retour dans le studio Coluche. Mais en attendant, chaque après-midi, on leur passe un coup de fil histoire de prendre de leurs nouvelles. Hier, par exemple, Marianne James allait très bien jusqu'à ce que sa bonne humeur se fracasse sur le tact légendaire d'Eva Rock, qui trouve toujours les mots.
J'ai perdu 5 kilos.
Mais non.
Victoire ou pas?
Mais en faisant beaucoup d'efforts ou voilà, comme ça.
Sympa la copine.
Mais c'était une question,
oui.
Quoi.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures à la croisée de la bonne humeur et du savoir en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 et en ligne avec nous chaque après-midi, une personnalité. Aujourd'hui, la chanteuse qui n'est pas une icône car elle est toujours en mouvement, c'est Dany qui est avec nous.
Je suis la fille à la moto, je suis la
J'adore cette chanson.
Moi aussi, j'adore.
Alors... C'était un an avant Brigitte Bardot.
Mais bien sûr.
Qui chantait avec la moto avec Gainsbourg.
Bardot, enfin, vous a tout pris, Dany.
C'est une chanson de Jacques Lanzmann.
Mais elle est formidable,
cette chanson.
C'est
une chanson de Jacques Lanzmann. Et je crois que c'est un des musiciens de Jacques Dutronc qui a fait la musique.
Ah, c'est marrant, parce que c'est marrant.
Ça s'entend vraiment. Ah, oui, ça s'entend beaucoup. Ouais.
Oui, Michel Pelé. Oui, oui, c'est ça. C'était la fameuse équipe, là. C'est drôle, cette chanson.
Dany, vu de l'extérieur, il semble que votre vie soit une succession incroyable de hasards avec une bonne dose de culot et d'audace. Je m'explique. Originaire de Perpignan, vous débarquez à Paris le 11 novembre 63. 3 jours après votre arrivée, vous descendez les Champs-Élysées, vous arrivez devant l'immeuble du journal Jour de France, vous entrez, vous dites « J'arrive de Perpignan, je voudrais devenir mannequin » avec l'accent mannequin.
Ah, oui, bien sûr.
Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est romancé?
Oui. Mais il me semble qu'à 19 ou 20 ans, on a un peu l'audace que... Et avec du recul, après, on se dit, mais comment j'ai pu faire ça, quoi, hein. Après, j'ai appris à parler parisien. Non, l'accent.
On vous a demandé d'effacer votre accent ou pas, Dany?
Ah oui.
Pas du tout. Mais quand je me mets en colère, j'ai toujours l'accent.
Ah, il revient. C'est un peu comme Eva.
À
elle
moi
est niçoise,
aussi,
ça revient quand elle s'énerve. Alors, comment se fait l'enchaînement? Vous faites la une des magazines, ensuite vous vous retrouvez, vous tournez comme avec Truffaut, Chabrol, Lautner, Doyon. Comment, tout ça n'est pas un hasard, enfin, Dany, comment on se retrouve
alors,
à tourner avec les plus grands?
Les rendez-vous de la vie, vous savez, j'ai rencontré François Truffaut à la boulangerie parce que j'allais chercher mon fils à l'école. Il avait ses bureaux, la rue Robert-Étienne. Et puis un jour, j'avais une photo dans un journal. Il me dit, c'est vous à la boulangerie, là? Je lui dis, oui. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, je viens chercher mon fils qui est à l'école au bout de la main. Ah, il me dit, vous savez que mes bureaux sont en haut. Et je lui dis, mais vous voyez la cour de récréation? Il me dit, oui. Alors je lui dis, est-ce que je peux venir demain pour voir qu'est-ce qu'il fait pendant la récréation?
C'est génial. Et c'est comme ça que ça
fait. Et alors là, j'ai rencontré Suzanne Schiffman, tout son staff. Et puis voilà, j'allais là-bas. Puis un jour, on m'a fait porter un pli en me disant, est-ce que vous voulez être Liliane, la petite amie de Antoine, dans mon film qui s'appelle Je vous présente Pamela, la nuit américaine. Voilà. Et après, voilà, Jean-Marie Perrier, voilà. Mais j'ai jamais. Voilà, c'était des rendez-vous, c'est les rendez-vous de la vie.
Mais ce qui est fou, Dany, quand on vous écoute, c'est qu'aujourd'hui, on croise beaucoup de jeunes acteurs. Alors, il y a des écoles, des formations, tout ça. Ils ont tous les dents qui rayent le parquet. Ils tueraient père et mère pour un rôle. On a l'impression que vous, tout s'est fait comme ça, légèrement, par la magie des rencontres. C'est vraiment le résumé de votre vie. Vous n'avez jamais forcé la porte.
Après, évidemment, quand on a des aventures comme ça, il faut bosser un peu. Hein. Il faut s'intéresser. Le cinéma, c'est quand même autre chose que la musique, et c'est intéressant d'être quelqu'un d'autre pendant 2 ou 3 mois, c'est pas mal.
Dany, on parle de toute cette période de vos débuts, quand vous y repensez, vous avez une impression de nostalgie ou voilà, c'est derrière vous et puis vous préférez regarder devant?
Non, je regarde pas le rétroviseur tellement, mais c'est vrai que c'est voilà, je prends ça comme ça, c'est des cadeaux du ciel pour moi. Évidemment, il y en a qui donnent des ailes, d'autres ont dit oh là là, j'aurais pu faire ça comme ça, ou j'aurais pas dû le faire, ou on a toujours. Enfin moi personnellement, j'ai toujours des doutes, mais je regarde pas trop dans le rétro, je regarde plus devant.
Dans votre prochain spectacle dont on parlait tout à l'heure, vous dites que vous allez rendre hommage aux femmes qui vous inspirent. Oui. Quelles sont ces femmes qui vous ont inspiré dans
votre
vie ? Par
exemple, je vais lire un bout de Anaïs Nin, par exemple. Ouais. Évidemment Simone Veil, j'ai lu une lettre de Calamity Jane qu'elle a écrite à sa fille.
Ah, génial.
Et donc ça sera intégré au spectacle sous forme de lecture.
Oui.
Dany, vous nous racontiez que tout à l'heure c'était Étienne Dao qui vous avait poussé à de nouveau chanter et à reprendre comme un boomerang. Qui vous a poussé là à remonter sur scène et à créer ce spectacle ?
C'est il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai fait des concerts avec une autre formule, c'est juste une fille qui joue de la guitare électrique avec moi. On n'est que 2 sur scène. Et ça a donné un son et un coup de soleil à des chansons que j'avais, que j'adore toujours. Et revisitées musicalement, elles prennent une autre histoire.
On l'attend avec impatience, Horizon Doré, donc cet album qui va sortir normalement à la rentrée, c'est bien ça Dany ?
Oui, c'est ça.
Et ensuite, le spectacle.
On s'en va, mais tout de suite, là, on ne peut pas faire de spectacle. Oui. Donc il faut avoir de la patience, encore une fois, continuer à rêver et faire tout bien pour retrouver cette liberté qui nous manque à tous, quoi.
Soyons patients, mais continuons de rêver. C'est le message de Dany aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, Dany.
Avec plaisir.
Europe 1.
Avec son sujet du jour, Fred Goetti part, il le sait, avec une longueur d'avance, puisque son thème n'est autre que la passion des baroques.
Le sexe, évidemment.
Non, l'autre, le jazz. Le jazz qui, comme tous les arts vivants, se prépare un été catastrophique. Pour l'instant, seul un festival se maintient. Fred Goetti nous explique où et comment. C'est juste après Marie-Flore, M'en veux pas, sur Europe.
Moi, je lui balance que je l'aime. Lui me dit chacun ses problèmes. Lui, il est pas là pour les mêmes raisons que moi. Hein. Mais y'a comme un truc qui traîne quand même en lui. Y'a moi qui cède à ses sirènes, m'aime-t-il aussi. Moi, je suis pas là pour les mêmes raisons que lui. Hein. Eh ouais, je fais de la peine à voir. Depuis que j'ai le cœur sur le départ, depuis que c'est réduit l'écart entre lui et moi hier soir, contre le bar, chérie, ouais, je fais de la peine à voir. Depuis que j'ai le cœur sur le départ, mais tu sais comme il est si rare d'aimer si vite sans crier gare. Alors, m'en veux pas. Je crois pas.
Sans crier gare,
M'en veux pas, c'était Marie-Flore sur Europe 1. Oui, va.
C'est mes prénoms, Marie-Flore. C'est mes deuxièmes prénoms. Mon deuxième et troisième prénom. Je m'appelle Eva Marie-Flore.
Eva Marie-Flore.
C'est marrant, ça. Ouais.
Mais ça sonne bien, Eva
Mais
Marie-Flore.
Oui.
Eva Marie-Flore
ouais,
Rock.
Ouais. Ouais. C'est
vous
beau,
êtes
hein.
vraiment béni des dieux, Eva Marie-Flore Rock.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Pour sa dernière prestation, il a réalisé le Grand Chelem. Ce qui n'a rien d'étonnant, car Fred Goati, directeur de Jazz Magazine, est un des plus redoutables concurrents de l'équipe est sauvage. Ces sujets contiennent toujours un subtil dosage d'infos et de révélations.
Qu'est-ce qu'il faisait Jimmy Page avant Led Zeppelin? Il était musicien de studio. Alors, c'est quoi un musicien de studio?
C'est un musicien qui joue dans un studio.
Voilà.
Fred, aujourd'hui pourtant, vous n'avez pas le cœur à rire. Le jazz souffre et va souffrir cet été de la crise du Covid. À ce jour, un seul festival se maintient, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Mais vous savez ce qui nous manque, les amis? Ben, c'est d'être dans une grande salle de concert.
Oh oui.
Comme quand on allait écouter Miles Davis, naguère. Et qu'on poussait un cri d'extase quand il venait de jouer une phrase sublime. Écoutez ça. Vous avez entendu le
oui.
monsieur qui s'est évanoui?
Oui, tout à fait.
C'est pas moi, mais ça aurait pu. Hein. Ce qui nous manque aussi, c'est de pouvoir aller en club pour applaudir une chanteuse de jazz qu'on aime, par exemple. Tiens, Cécile McLaurin,
ah, oui.
au hasard.
Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, running wild.
Yeah. Yeah.
Les applaudissements.
Mais oui.
Je comprends que vous ayez le blues, Fred, mais on sait hélas qu'il va falloir s'armer de patience avant de pouvoir retourner écouter de la musique live.
Ouais, c'est vrai. Mais en attendant, les gens du métier cherchent des idées. Ils font tout leur possible pour être solidaires avec les musiciens. Et justement, le Maison Lafitte Jazz Festival vient d'avoir une idée formidable. Faire une édition digitale, une digital edition de leur festival, c'est-à-dire filmer avec des moyens professionnels et évidemment, dans le respect des règles de sécurité, 7 concerts d'artistes français pour les diffuser entre le 12 et le 21 juin sur Facebook Live, sur YouTube et sur leur site officiel. Ces concerts seront agrémentés d'interviews des artistes, des techniciens et des bénévoles pour que les gens puissent mesurer à quel point la musique live, c'est avant tout un travail collectif. Et ce qui gâche rien, c'est que la programmation, elle est vraiment top. Il y a le guitariste Birelli Lagrène, le chanteur David Links, le pianiste Paul Lai, sans oublier le génial accordéoniste Vincent Perani, qui jouerait avec son nouveau trio en plus, Jokers. Alors, je lui ai passé un petit coup de fil pour savoir comment il imaginait ses concerts.
Pour nous, musiciens, voilà, de nouveaux repères à apprivoiser sur scène, je pense que, c'est sûr, l'émotion sera au rendez-vous. Et j'ai très très hâte d'y être pour savoir comment ça va se passer, comment on va tous réagir, comment on va se retrouver, comment on va dialoguer ensemble, comment on va se regarder, comment on ne va pas se toucher.
Il y aura aussi une batteuse dont j'adore l'univers, elle s'appelle Anne Passeo. Et elle aussi, bien sûr, elle se réjouit que Samuel Strouk, le directeur du Maison Lafitte Jazz Festival, et lui-même musicien d'ailleurs, ait eu cette belle idée.
Je trouve que cette édition du Maison Lafitte Jazz Festival, c'est une super idée. Et c'est vrai qu'avec cette crise Covid-19, nous musiciens avons eu la totalité de nos concerts annulés. Et être privé de la scène, c'est quand même quelque chose de pas évident. J'espère que très bientôt, on pourra rejouer devant des gens. Je pense que ça va être un chouette moment. Et aussi, ça risque d'être très émouvant.
Ouais, clairement.
Vous avez remarqué, ils ont tous les deux évoqué l'émotion que va procurer ces concerts. Alors ces concerts auront lieu bien sûr à huis clos, en attendant les guichets fermés, j'espère, bientôt. Et le public ne les découvrira que sur le net. Mais que les artistes puissent à nouveau travailler, créer, partager, je trouve ça effectivement vraiment très émouvant.
Alors ça, c'est une belle idée, mais j'imagine que d'autres festivals vont rivaliser d'invention pour permettre aux artistes de rejouer quand même.
Et vous croyez pas si bien dire, Mathieu. Je viens d'apprendre que le grand festival Jazz à Vienne en France, pas en Autriche, proposera entre la fin juin et la mi-juillet des événements live, des conférences et plein d'autres surprises. Allez, comme disait l'autre, on ne lâche rien, on supporte la musique live. Et on écoute du jazz.
Évidemment.
Merci beaucoup Fred. Et si les festivals de jazz ne peuvent pas se tenir, ce sera peut-être l'occasion pour les amateurs comme Eva de se produire dans la rue pour nous montrer leur progrès. Ah oui.
Non, ça va toujours pas mieux.
Non. On se prépare vraiment un bel été.
Europe 1.
Quelle horreur cette musique,
Comment résumer rapidement ce que furent les performances d'Eva dans le quiz de Culture G qui l'opposait jadis à l'invité?
Voilà, c'est à peu près ça, une
aussi,
catastrophe.
Aussi, ouais. Voilà. Comme les musiciens du Titanic, elle savait que c'était peine perdue, mais elle a joué le jeu jusqu'au bout. C'est donc plus qu'un plaisir sadique, un devoir de mémoire que de réécouter le best-of du quiz. A tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Dès son plus jeune âge, quand de beaux Italiens tatoués l'emmenaient faire des tours de mobylette dans l'arrière-pays niçois, Eva Rock a toujours aimé jouer. Le frisson que ça procure. Ah, ça lui a parfois joué des tours.
C'est quoi ça? Ah, d'accord. Je sais pas si c'est la musique ou votre bruitage à la con qui me fait rire, pardon.
Mais ça lui a également procuré beaucoup de plaisir, notamment lorsqu'elle participait au quiz de Culture G qu'il opposait chaque après-midi à l'invité. Ah, de temps, on avait encore un invité, souvenez-vous Eva, c'était presque aussi bon que dans le maquis. Pascal Obispo, le moment est venu, l'immense et regretté Jean-Pierre Marielle disait
« Il y a deux races de femmes, les frappées et les sournois. »
Et puis il y a celle qui cumule, voici Eva Rock. Pascal Obispo.
C'était dans quoi? Tu veux dans Calmos, non?
Dans Calmos, pardon.
Calmos, ouais. Ouais.
Ah, je vois qu'on a les mêmes références. Ça
bien
fait plaisir.
Bon, Pascal... Vas-y, François, casse-moi la gueule.
Je vous propose de jouer contre Eva. Qui veut gagner un presse-agrumes Christophe Ondelatte et ses accessoires?
Des fouets,
oui.
Des cravates,
oui, oui, oui.
Des pinces,
oui.
Des spéculum.
Oui, c'est toute option, c'est toute option.
Spéculum.
Pascal Obispo, pour le quiz du jour, nous allons essayer de faire un vrai faux sur les artistes présents dans le clip de votre tube Fan. Je rappelle que dans ce clip, on a pu vous voir déguisé en Polnareff, Elvis, non, Freddie Mercury, Marilyn, entre autres. Comment ça?
Mais c'est injuste, c'est sur le clip.
Mais non, mais vous allez voir.
J'étais
c'est
bien, Marilyn.
Vous étiez
mais
magnifique.
Oui, c'était beau.
Super, très sexy.
C'était belle.
Vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Pascal Obispo, très rapidement, dans le clip Fan, on vous voit en John Lennon. Les Beatles ont fait une reprise de Besame Mucho. Vrai ou faux?
Oula.
Besame.
C'est tellement incroyable, peut-être oui.
C'est incroyable, mais c'est vrai. Écoutez.
Tchao, Besame. Besame Mucho.
Janvier 62, McCartney, Lennon et George Harrison passent une audition avec le label Decca Records. Ringo Starr ne fait pas encore partie du groupe. Les Beatles sont recalés. Étonnamment. Eva Rock, oui. Dans le clip Fan, Pascal Obispo devient Angus Young, le célèbre pianiste du, le célèbre guitariste pardon, du groupe AC/DC, parce que le pianiste dans le groupe AC/DC est assez discret. Gérard Huerta est l'auteur du logo AC/DC. Avec les royalties, il a pu s'offrir chez lui une énorme piscine en forme de guitare. Vrai ou faux?
Bon, pourquoi pas, ouais, vrai.
Ça sonne bien vrai, hein. C'est un piège. Gérard Huerta est bien l'auteur du logo de AC/DC, mais il n'a jamais touché un seul centime de ce logo, pourtant connu mondialement. Et non, il s'est fait avoir, il y a des royalties qui se perdent.
Ah oui, mais ça ne m'étonne pas que je n'ai pas trouvé la réponse à cette question.
Oui, vous ne pouvez pas en même temps.
Attention, me fais toujours avoir.
Vous répondez ensemble, une question, trois propositions. Pascal Obispo, vous étiez très crédible en moustache et en Freddie Mercury dans le clip Fan. Freddie a enregistré un duo avec Michael Jackson, mais pourquoi la collaboration ne s'est pas bien passée? 1. Parce que Michael voulait commencer et finir la chanson. 2. Parce que Michael n'aimait pas les hommes à moustache. 3. Parce que Michael ne se séparait jamais de son lama.
La première.
Parce que Michael aussi, voulait commencer j'aurais dit la première, chanson. Ouais.
Ouais.
Et Nicolas Caro nous fait un signe. Nicolas Caro qui ne joue 3. Pas, mais qui veut participer.
C'est le lama. C'est le lama.
C'est-à-dire que vous êtes sûr de cette réponse. C'est-à-dire oui. Que Michael Jackson ne se séparerait
oui,
jamais d'un
absolument.
Lama.
Et ah bon Freddie Mercury en avait vraiment marre de ce lama.
Bah, surtout quand tu chantes, se faire cracher dessus. C'est difficile. Oui, tu vois.
Réponse 3. Bravo Nicolas Caro. Michael Jackson et Freddie Mercury voulaient faire ensemble un album entier, mais ils n'ont réussi à enregistrer que 3 chansons. Le chanteur de Queen s'est plaint auprès de son manager car Michael avait amené son lama dans le studio d'enregistrement.
Les odeurs.
On écoute un extrait quand même.
Le lama pue. Là, t'entends.
Et voilà. Et je sens que nos malicieux techniciens l'ont rajouté, le petit bruit du lama, je l'entends. Très beau montage, très belle production. Eva Rock, Marilyn Monroe, que Pascal Obispo s'est incarné de façon très troublante,
ouais, oui.
Fan, avait fait de la chirurgie esthétique au menton et au nez. Est-ce vrai ou faux? L'icône, Marilyn Monroe.
Ah, question piège là.
Hey.
Je vais dire faux.
Vous dites faux. Décidément, vous allez ouais. Vous faire rétamer dans ce quiz. Vrai, ces radiographies ouais. Prouvant les deux opérations ont été vendues aux enchères 21 000 $, très légère retouche sur le nez et un implant mentant en 1950.
Ah bah
à l'époque,
voilà.
Ça devait être
ouais.
Risqué, la chirurgie.
Ah ouais, ça devait être risqué. Ouais.
Très risqué.
On c'est tout, ça l'est toujours,
c'est
hein,
la question qui va vous départager. En même temps, je crois que Pascal a déjà gagné. Pascal,
bah oui.
Vous incarnez dans le clip Fan Michel Polnareff. L'année dernière, durant la période des fêtes, a été lancé Paul Napli, une application sur votre portable pour avoir des émoticônes à l'effigie de Paul Naref, vrai ou faux ?
Vrai.
C'est vrai ?
Bah,
il connaît tout, mais il remporte le quiz, mais haut la main ! Bravo à notre ami Pascal Obispo. Le 7 presse agrumes, Christophe Ondelat est à vous. Merci qui ?
Merci avec le spéculum aussi.
Avec le spéculum, ah,
merci,
évidemment.
Merci.
Très peu servi.
Ouais. Europe 1.
Si certains enfants ont repris le chemin de l'école, nombreux sont ceux qui continuent de végéter dans le salon, éparpillant sadiquement leurs petits Legos sur lesquels on marche ensuite, et ça fait mal. Vous êtes à cran, vous ne supportez plus le son d'un mot qui sonnait pourtant si doux à votre oreille autrefois, le mot « maman ».«
Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école. »«
Maman,
il y a
plus de
chien !»« Maman, maman, il est où l'iPad ?»«
Maman, il est où mon sac de cours ?»
Faites une pause et mettez-les devant un écran. Les conseils télé débat pour vos petits, moyens et grands, c'est juste après Bruno Mars. 24K Magic sur Europe 1. Okay, Magic, c'était Bruno Mars. Restez là, on revient dans une minute sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Interruption des programmes.
This is CNN Breaking News.
Car tout à l'heure, Eva nous parlait d'une anecdote qu'elle ne m'avait jamais racontée.
Mais même, ça m'étonne que je ne vous ai jamais raconté
même
ça.
Même hors antenne. Ouais. On savait déjà ses capacités
à courir vite, hein.
Courir vite, à battre même Marie-Josée Perret, qu'on peut le dire. Ça, c'est une anecdote que vous nous avez racontée. Mais nous ne connaissions pas cette anecdote. Une anecdote qui nous entraîne très loin, dans la savane africaine.
Oui, exactement.
Car Eva Rock a fait un sprint avec un hippopotame.
Enfin, avec, non.
Alors, racontez-nous ce qui s'est passé, Eva, parce qu'on a du mal
non,
à
mais
croire.
C'est, non, je vous assure, c'est vrai. C'est on est dans une réserve au Burkina Faso. Quand je dis on, c'est, je suis avec mes sœurs qui sont elles-mêmes avec leurs conjoints respectifs. Et on est encadré évidemment par deux guides pour faire la visite de cette réserve africaine. Non, mais ne riez pas, je vous assure. Et donc, depuis le début de la journée, ils nous expliquent quand même que l'animal le plus dangereux, c'est l'hippopotame. Donc,
ça,
on va s'approcher des hippopotames, mais il faut faire hyper gaffe. Et donc, on arrive effectivement à un point d'eau où on les voit, vous savez, il y a les deux petites oreilles là qui sortent de l'eau. Et donc, on les regarde tranquillement. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, est-ce que c'est un des guides ou quoi qui a peut-être voulu nous faire rire, ou enfin, j'en sais rien, ou nous faire peur en l'occurrence. Il y a eu un bruit qui fait que d'un coup, l'hippopotame est sorti de l'eau et il nous avait dit surtout vous courez parce qu'en fait ça court très très vite. Quand
surtout
ça sort
vous courez,
de
il avait dit.
Ouais.
Mais vous courez pas aussi vite que l'hippopotame, ça court à 70 km/h.
Mais donc oui, ça court très vite un hippopotame. Mais justement, donc quand il est sorti de l'eau, on a eu mais la trouille de notre vie. Et alors là, je peux vous dire que l'instinct humain qui se réveille, c'est-à-dire que personne ne s'est occupé des autres. C'est chacun a couru.
Chacun sa merde.
Ah ben chacun sa merde.
On a vos sœurs, là, les autres.
Ah ben mes sœurs, elles étaient derrière.
Ah, oui.
On a couru mais tout droit, c'est-à-dire que vous cherchez même pas à savoir où vous allez, ce qui est complètement stupide. Et mais on a eu vraiment très très
peur. Comment ça s'est terminé ?
Entre temps, en fait, comme quand il était sorti, un des guides avait tiré un coup de feu en l'air pour effrayer l'hippopotame. Mais nous on n'a pas regardé pour savoir s'il nous suivait ou pas. Hein. Et juste pour la petite histoire, sachez quand même qu'un de mes beaux-frères, lui, était resté sur son rocher, en train de faire une photo, tranquillement. Et donc, il a la photo de l'hippopotame en train de sortir de l'eau et nous courser.
Non.
Et il est resté stoïque. J'ai jamais compris
mais
comment il avait fait.
Cette photo,
on va vous l'amener.
La France veut voir cette photo.
Ah, mais quelle rigolade.
Vous courez.
Non, mais on a ri après, mais pas sur le coup, je vous assure. C'est hyper effrayant.
Il a fini par s'arrêter.
Eh ben, je pense, hein, parce qu'en tout cas, nous, on a couru. Hein. On n'a pas cherché à comprendre.
Et la morale de cette histoire, c'est que vous courez plus vite que Marie-Josée Perret et plus vite qu'un hippopotame lancé au grand galop, si tant est qu'un hippopotame parte au galop. Je ne sais pas si on dit ça.
Bah, je sais pas non plus. Hein.
Très belle anecdote,
oh là
Eva.
Là.
Vous remontez dans mon estime
c'est
encore.
C'est vrai.
Ah, j'avoue que c'est encore plus fort que mon anecdote avec le requin.
Mais j'ai eu très peur, hein, je peux vous dire.
Quels aventuriers.
Vous voulez un petit choix pour les enfants quand même.
Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, parce que c'est vrai que les enfants sont toujours dans nos pattes.
Bah oui.
Qu'est-ce qu'on leur propose ?
Je leur propose un dessin animé pour à partir de 8 ans, je dirais. C'est une séance de rattrapage gratuite sur Gulli. Vous allez découvrir un film d'animation qui est très drôle, qui s'appelle Un prince trop charmant. Alors vous savez, le prince charmant, c'est celui qui, dès qu'il sourit, il va faire craquer toutes les filles. Et alors d'ailleurs, il se prépare pour son mariage, ce prince charmant. Il est face à un peintre qui dessine son portrait.
Concentrez-vous, c'est pour votre portrait de mariage. Faites-moi le sourire d'un homme amoureux.
L'amour ? Si seulement je savais ce que c'est.
Et votre fiancée, vous l'avez rencontrée comment ?
Oh oui, c'est un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. On parle de quelle princesse, au fait ?
Eh ben oui, parce que notre prince charmant, à force de sourire à tout le monde, il ne sait pas qui il va devoir épouser. Parce qu'il a séduit Cendrillon, il a séduit Blanche-Neige, il a séduit la Belle au bois dormant, voilà. Et donc, il faut qu'il choisisse quand même. Mais il va devoir choisir une femme sans jamais avoir été amoureux, jusqu'au jour où Lénie, c'est une fille un peu garçon manqué, un peu bandit, qui va croiser son chemin, et qui va peut-être lui faire découvrir l'amour. Voilà. Comment réaliser un film d'animation sur les contes de fées en les démontant, tout en conservant les codes et au final raconter un nouveau conte de fées ? Ben, c'était le pari de ce film d'animation très malin et très drôle. Bon, c'est loin d'être de la qualité d'un Pixar, mais quand même, Un prince trop charmant vous amusera, vous et vos enfants, sans aucun doute. Et j'avoue avoir ri très fort en découvrant quelques passages chantés façon comédie musicale sirupeuse. Je soupçonne le réalisateur de se moquer vraiment très très fort de ce genre. C'est à voir encore pendant deux jours sur Gulli.fr.
Et si jamais, parmi vous, chers auditeurs, se cache Un prince charmant 39-21, car je rappelle que le cœur d'Eva, entre autres, est toujours à prendre.
Europe 1.
Quatre journalistes, une seule couronne de chroniqueur du jour et deux heures d'une lutte sans pitié. Telle est la recette de l'équipe et sauvage dont la deuxième manche se prépare. On parlera du cinéma qui se réinvente à l'heure du Covid, notamment grâce à l'arrivée des drive-in comme aux États-Unis. On vous dira aussi à quoi va ressembler la vie de bureau demain. Eva nous parlera des nouvelles séries à ne pas rater. Olivier Pouls vous donnera la recette d'un dessert facile et goûteux. Quant à moi, je continuerai d'illuminer cette émission de mon talent et surtout de ma parfaite connaissance des sujets évoqués, comme on l'a encore constaté hier durant la chronique d'Anne Le Gall.
Un couple de chats errants non stérilisés peut engendrer, à votre avis, jusqu'à combien de descendants en 4 ans ?
18.
20 000 descendants en 4 ans.
Oui, 18 000, c'est ce que je voulais dire, évidemment, Anne Le Gall.
Ouais, bravo.
Donc j'étais pas si loin.
Pas si loin.
Oui, pas si loin. C'est mon surnom.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.